Bonsoir les amoureux des livres et des apéros. Les migrants sont un fardeau. Ils défigurent nos côtes, encombrent notre Pas-de-Calais, je ne parle même pas de Hénin-Beaumont. Ils pompent le travail des Français, leur argent, leur pain, ils pompent l'air. Le migrant, voilà l'ennemi. Évoluer comme discours, grince la littérature, ça fait plaisir. Oh, mais c'est la clairvoyance de Dupont-Mono qui est en train de migrer. Regardez du côté des livres, c'est l'inverse. Les grands personnages de romans, ce sont des migrants. À commencer par Rastignac chez Balzac. À nous de Paris pourrait être aussi lancé par un rescapé de Mossoul. Et les chevaliers de la table ronde, ce sont tous des migrants. Ils arrivent de Cornouailles, de Bretagne, du Pays de Galles. Ils ont tout laissé derrière eux. Et de qui est amoureux le comte de Monte-Cristo ? De Haïdé, fille d'Orient qui a gagné l'Europe. La figure du migrant offre chaque fois un condensé de vaillance et de nouveauté. Et si vous en doutez encore, lisez « L'adieu à la femme rouge » de Vénus Kourigata, paru au Mercure de France. Nous sommes quelque part en Afrique, au bord d'un désert. Une femme quitte son village pour partir avec un photographe blond qui était de passage. Son mari et ses deux enfants, des jumeaux, décident de partir à sa recherche. Parcours de migrants tristement habituel. Les passeurs, la route, les bateaux percés cherchaient l'horreur. Mais le père et les enfants parviennent sains et saufs en Espagne. Ils cherchent la mer. La modernité occidentale est vue par leurs yeux. Qu'est-ce que c'est que ces espaces verts et faméliques au milieu des villes ? Et pourquoi tant de murs et si peu d'arbres ? Vénus Kourigata n'est pas seulement la plus belle des grandes dames, même si elle fut Miss Beyrouth en 1959. C'est aussi une des plus grandes conteuses, parce que oui, ce livre reprend la tradition orale des contes orientaux pour parler de sujets terriblement modernes. Alors, le temps d'un apéro, nous partagerons un amuse-bouche avec Vénus Kourigata, quelques falafels, un peu de houmous. Elle nous livrera ses secrets d'écriture, comme on révèle la fin des mille et une nuits, ce sera le procès-verbal, nous confiera ses goûts culturels aussi cachés qu'un trésor de sultan, ce sera les inavouables, avant qu'un libraire, gardien de tous nos périples, ne vienne sonner la fin du voyage.
France Inter, l'amuse-bouche, Clara Dupont-Mono.
Bonsoir Vénus Kourigata.
Bonsoir, quelle belle présentation, c'est de la dynamite.
On essaye. Dans l'adieu à la femme rouge, votre dernier roman, Vénus Kourigata, vous vouliez raconter la migration ou alors l'amour fou d'un homme qui quitte son village pour chercher sa femme. Roman d'exil ou roman d'amour ?
C'est les deux à la fois. L'exil imposé à cet homme. Cet homme était très heureux dans sa palmeraie avec sa femme, son âne, ses deux enfants. Et puis sa femme rencontre un photographe qui photographie le désert. Pour la première fois, il voit dans son objectif, dans son appareil, à travers son appareil, une femme qui est en train de se laver les cheveux avec de la brique rouge, son corps, elle est rouge, elle est flamboyante, il se met à la photographier et le reportage paraît des mois après et cette femme se voit, cette femme qui est une petite misérable paysanne dans un désert, se voit à la une d'un grand journal et ce sujet m'a été soufflé, je dirais, par un reportage à Paris Match. Merci Paris Match de m'avoir montré cette femme rouge qui m'a donné envie d'écrire son histoire.
Vous voulez dire que vous êtes tombée sur une photo ?
Sur une photo, et la photo a tout déclenché chez moi. Et j'ai imaginé cette femme que le photographe du désert a photographiée, et puis elle voit sa photo, parce que le tiers-monde et les déserts reçoivent tous les rébus de l'Occident, les journaux voyagent, c'est le vent qui les enlève, qui les pousse vers les déserts. Elle voit sa photo, elle devient folle, il faut qu'elle retrouve le photographe, il faut qu'elle retrouve cette ville, elle devient un grand top modèle, illustre, et le mari vient pas pour migrer, pour trouver du travail comme les autres migrants, pas pour gagner sa vie et vivre en occidental. Il veut simplement retrouver sa femme et la ramener chez lui. C'est tout ce qu'il veut. Et cet homme est tellement, tellement bon et tellement amoureux de sa femme que quand il arrive là-bas, un an après elle, il apprend qu'il a vécu un moment chez le photographe, un autre moment chez un écrivain qui écrit sa vie, parce que cette femme est devenue très illustre, très importante. Elle va d'homme en homme. Et ses photos sont partout dans la ville, sur tous les murs de la ville. Alors cet homme va d'un amant à un autre pour les remercier d'avoir hébergé sa femme. Il est naïf, il est candide, il est bon, il est amoureux de sa femme. Et sa femme n'aime que ce qu'elle est devenue, l'image qu'on lui a projetée sur les murs de la ville. D'ailleurs, quand il arrive avec ses enfants, au bout de 6 mois de recherche à Séville, il retrouve sa femme, mais quoi ? En photo sur les murs. Et les enfants trouvent que leur mère a changé. Leur mère a des cheveux blonds. Elle était avant rouge avec de l'argile. C'est une sauvage. C'est devenu un top modèle. Ils veulent ramener leur mère et revenir chez eux dans leur petit village, dans leur figuier où ils passaient des journées entières.
Vénus Kourigata, votre mère était analphabète. Ça vous fait un point commun avec l'écrivain égyptien Albert Kosri.
Vous savez, je suis un écrivain égyptien qui écrit en français. Pourtant, ma mère était illettrée, mon père presque. Il lisait le journal, c'est tout. Donc vous voyez que les parents ne jouent pas un grand rôle dans l'éducation des enfants. J'ai eu la chance d'avoir des frères plus âgés qui étaient des intellectuels. Et donc, moi, je n'ai jamais lu un livre d'enfants. Parce que d'abord, je ne les avais pas. J'ai lu tout de suite les classiques français. Et ce sont ces livres-là qui m'ont fait.
Albert Kosri, donc de
magnifique écrivain.
De mère analphabète qui a été poussé vers la lecture, dit-il, par ses frères. Et vous, Vénus Kourigata, qu'est-ce qui vous a poussé vers la lecture ?
Par un frère qui était poète, qui a écrit des poèmes depuis l'âge de 10 ans. À l'âge de 18 ans, il est venu en France pour publier ses poèmes. La France ne l'a pas publié. Il est rentré drogué. Il a appris à se droguer en France. Et mon père, qui était d'une autorité incroyable, écrasante autorité, au lieu de lui payer une cure de désintoxication, il l'a envoyé chez les fous. Il a passé 20 ans dans un asile d'aliénés. Il en est mort. Et quand lui n'a plus écrit de poèmes, j'ai écrit à sa place. Et une fois qu'il est parti, qu'il a laissé un cahier à la maison, je me suis mise à écrire, à dire « Allons-y, Victor !» comme si c'était lui qui était en train de me dicter. Et cette enfance, je l'ai racontée dans un livre qui est devenu fondamental dans mon œuvre, qui s'appelle « La maison au bord des larmes », qui est apparu chez Actes Sud et qui continue à être tout le temps consulté depuis 20 ans.
Et comment est-ce que votre mère voit votre carrière d'écrivain ? Elle est fière ?
Ma mère est morte. Ma mère était très ambitieuse pour moi. Elle voulait pour moi ce qu'elle n'avait pas eu. L'humiliation qu'elle avait de ne pas savoir écrire et lire, je l'en console en écrivant dans un livre ou dans la poésie, parce que chez moi les deux se communiquent entre eux, que la morte analphabète est derrière mon dos, je suis en train d'écrire, c'est elle qui me donne des conseils pour ne pas faire telle faute de grammaire, telle faute de... Elle me dicte la morte analphabète. J'en fais une femme qui est devenue cultivée après sa mort.
Les enfants de votre roman, eux, ils refusent d'apprendre à lire et à écrire, et même quand ils arrivent en Occident, on est quand même très très loin de ça.
Je suis le directeur de l'école. Au nom de l'équipe de direction et de tous les professeurs, je vous souhaite la bienvenue à tous. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons dans cet établissement. Je suis persuadé que vous réussirez très vite à vous intégrer à votre nouvel environnement. Bien sûr, vous arrivez de pays où le mode de vie, les mentalités, la langue sont très différents d'ici.
Extrait de Va, vie et devient de Radu Mihailanu en 2005. C'est un film qui est très beau, Vénus Kourigata, que je vous conseille. Et surtout, c'est quand même aux antipodes de ce que vivent vos jumeaux, en tout cas dans le livre Zeyt et Zina. Eux, quand ils arrivent à Séville, ils n'ont aucune envie d'écrire et de lire. On leur donne des cahiers, on leur donne des crayons, on leur donne une possibilité d'école. Ils veulent pas. Pourquoi ?
Parce qu'ils écrivent l'arabe, ils parlent l'arabe plutôt. Ils ont l'impression que écrire de gauche à droite en espagnol, puisqu'ils sont à Séville, va contrarier leur cerveau. Ils vont devenir dingues, ils vont loucher, ils vont avoir un torticolis. Ils sont contre cette langue qui n'est pas la leur. Ça va contrarier leur cerveau. Et le garçon, quand on lui demande d'aller au tableau noir, il a l'impression que le tableau noir, c'est une porte. C'est la première fois qu'il voit un tableau noir. C'est la première fois qu'il est dans une école. Il fonce dans le tableau noir. Il croit qu'il va s'ouvrir pour qu'il s'échappe de ce lieu-là. Ils ne sont pas habitués à l'Occident. Ils ne veulent pas de l'Occident. Ils veulent revenir dans leur palmeraie avec leur père, avec leur mère.
S'organise autour d'eux une confrérie de migrants, d'autres gens venus d'ailleurs, beaucoup plus généreux que le pays auquel ils ont accédé d'ailleurs. Et au bout d'un moment, on se demande quand même si ce ne sont pas eux les sauvages, c'est-à-dire le pays d'accueil Les plus civilisés, vous êtes d'accord avec ça?
Quand on voit le personnage bon et généreux et protecteur de Baobab, il s'appelle...
Baobab, c'est celui qui les oriente et qui s'occupe d'eux.
Il les oriente, il s'occupe d'eux, quand quelqu'un meurt, il cherche où l'enterrer. On se dit que la solidarité est parmi ces gens-là. L'Occident est devenu, je dirais, très individualiste. Chacun s'occupe de lui-même. Et ces gens ont encore le sentiment de l'entraide, de la solidarité.
Et vous, par rapport à la solitude, comment est-ce que vous vous situez vis-à-vis de ça? C'est quelque chose qui vous pèse ou au contraire qui vous maintient droite? Vous en avez besoin?
Moi, je suis entourée d'amis, mais je suis très seule. Je le dis dans mon livre, dans la femme qui ne savait pas garder des hommes, écrit à chaud il y a un an après la disparition de mon compagnon. Je n'ai jamais pu m'habituer à vivre seule et j'aime qu'il y ait beaucoup de monde autour de moi. Et ce qui n'est pas le cas dans les pays du tiers-monde, il n'y a pas de solitude. Les gens ont accès l'un à l'autre. Ici, il y a des murs entre les gens.
On a cherché une musique qui vous aurait un peu consolé quand même, Venis Kurigata, parce que vous êtes avec nous. Et on a cherché une chanson qui soit, mais rien que pour vous. Et ben, c'était assez facile finalement, parce que c'est le Liban. C'est Beyrouth et c'est Yasmine Hamdam.
La muse bouche sur France Inter.
Venis Kurigata est avec nous jusqu'à 20h pour son roman L'adieu à la femme rouge. Un conte magnifique qui met en scène un père et ses deux enfants africains qui ont tout quitté pour tenter de retrouver la mère, partie avant eux vers l'Europe. Vous venez d'un petit village, Venis Kurigata, le plus haut du Liban Nord, qui s'appelle Béchare. C'est aussi le village de Khalil Gibran, l'auteur du Prophète.
Une femme qui tenait un bébé sur son sein dit « Parle-nous des enfants ». Et il dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants ». Ils sont fils et filles du désir de vie en lui-même. Ils viennent par vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ce n'est pas à vous qu'ils appartiennent. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non vos pensées.
On dirait que ça a été écrit pour Zeyt et Zina, les deux enfants de votre roman. Mais en tout cas, c'était l'extrait du Prophète de Khalil Gibran, lu par Michael Lonsdal. Alors, on se demande, est-ce que ce petit village de Béchare a un don des dieux? Est-ce qu'il pousse à l'écriture, ce petit village de Béchare?
Tout à fait. Et d'ailleurs, la tombe de Khalil Gibran, il est enterré dans une anfractuosité du roc, domine tout le village. Et tout le monde se prend pour Khalil Gibran. Tout le monde écrit des poèmes, même mauvais, mais ils écrivent. Tout tout le monde séduit peut-être une telle hauteur qu'il manque d'oxygène et les gens se prennent. Il y a aussi le cannabis qu'on plantait.
Qui aide à l'écriture.
On en abusait un peu. Et je ne sais pas, le cannabis, écriture de poésie, ce n'est plus le cas maintenant. C'est devenu un village très, très sage, très raisonnable, moins drôle.
Est-ce que vous y retournez parfois ?
Je suis retournée 30 ans après parce que le village était entouré, encerclé par l'armée syrienne pendant la guerre. Donc 30 ans après, personne ne m'a reconnue. On m'a pris pour une étrangère, pour une visiteuse comme ça de la Kadisha, qui est la vallée sacrée. Et l'exil, parfois, je parle d'exil pour moi-même, mais c'était un exil heureux. Je suis en France, un exil, comme on dit, l'exil est porte ouverte pour les uns, tombe pour les autres. Elle a été une porte ouverte pour moi. Il y a aussi pour ces migrants de mon livre, l'Occident les a humiliés.
Oui, c'est deux exils différents, mais concernant le vôtre, vous venez d'en parler, un exil somme toute heureux. Eh bien, écoutez comment est-ce que l'écrivain marocain Abdelatif Lahbi en parle.
Petit à petit, j'ai commencé à découvrir malgré tout l'intérêt que représente l'exil. Et puis après l'intérêt, je découvre que c'est peut-être une chance que d'être exilé.
En quoi ?
Et après la chance, je découvre qu'il y a une sorte finalement de devoir pour un écrivain, pour un artiste, et peut-être pour n'importe quel être humain, de s'exiler, de s'éloigner, de prendre de la distance, avec sa culture, son pays d'origine, sa terre natale, tout ce qu'on voudra, le fait de désappartenir aussi, parce que on est des otages aussi de notre culture, de notre pays, de notre langue natale, pour ne pas dire maternelle ou paternelle. On n'a pas choisi tout cela. Si on y réfléchit, voir en quoi on est des otages d'une destinée qu'on n'a pas choisie.
L'écrivain marocain Abdelatif Lahbi, qui parlait de l'exil, Vénus Corrigata, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous venez d'entendre ? Est-ce que vous aussi, vous avez dû vous désappartenir du Liban ?
Je me sens en exil au Liban, pour vous dire la vérité. Quand je vais là-bas, je ne trouve pas que je suis à l'aise. C'est ici que j'ai fait mes racines. C'est ici la langue française. Pas seulement la France. Il a raison, Abdelatif Lahbi, de dire que on se doit aussi, on a un devoir envers cette langue, envers ce pays qui nous a donné sa langue, qui nous l'a prêtée, mais il est devenu, on se l'est approprié, on l'a changé. Moi, la langue française qu'on m'a apprise, ce n'est pas la même que j'écris dans mes papiers. J'essaye de donner le souffle de ma langue arabe avec les histoires de mon pays, de mon continent, dans cette langue française. Elle est accueillante, la langue française. Elle accepte tout ce qu'on lui donne. Elle est prête à entrer dans la danse. Elle est une générosité folle. Elle accepte aussi qu'on lui donne une autre forme, qu'on joue avec.
Et en même temps, c'était la langue de votre père qui était, alors en plus, ça vaudra un roman pour lui, mais c'était un moine devenu militaire, votre père. Il parlait français. Et donc, c'est aussi la langue paternelle que vous avez choisie.
Oui, exactement. Mon père n'aimait pas qu'on parle l'arabe à la maison. Il était interprète auprès du haut-commissaire français. Il adorait la langue française. Et quand la France a quitté le Liban à la fin du mandat, il s'est senti très malheureux après le départ de la France.
Il y a quelque chose, Vénus Corrigata, qui tient une grande place dans votre livre « L'adieu à la femme rouge », c'est le mur. Le mur joue un rôle, le mur est presque un personnage. Parce que quand les enfants y découvrent un appartement moderne, ils trouvent qu'il y a beaucoup trop de murs. Ils sont affolés par tous ces murs dans un appartement. Ils voient que l'image de leur mère s'étale sur les murs de la ville. Et puis l'enfant garçon devenu adolescent, il découvre la peinture sur les murs. Non mais si on résume, en fait, le mur sépare, exhibe et sauve.
Ils viennent d'un village où chacun a un cube de pisée, de boue séchée, et il y a une ouverture pour la porte. Ils se retrouvent dans des maisons où il y a plein de murs, il y a plein de portes entre une chambre et une autre. Ils se disent, pourquoi toutes ces portes ? Mon Dieu, une seule suffit pour décourager les voleurs. Tous les étonnent. Ils s'étonnent aussi de voir qu'il y a un bâtiment, une maison au-dessus de l'autre. Pourquoi ne pas les étaler au même niveau ? Tout est nouveau pour eux. Ils n'acceptent rien de ce qu'ils voient. Et ils n'ont qu'une seule envie, retourner chez eux. Et ces murs-là, dont vous parlez, Clara, sur lequel ils ont découvert leur mère après 6 mois d'absence. Ils la retrouvent sur du papier. Quand la mère, après une époque où elle est devenue un grand top modèle, où on ne voyait qu'elle sur les murs de la ville, dans les journaux, dans les magazines, brusquement, elle tombe en déséquilibre. Elle n'est plus
désirée.
Elle n'est plus, parce que la mode le veut, parce que les mannequins noirs ne sont plus à la mode. On prend les lituaniennes, on prend les slaves, blondes, éthérées. Et alors le fils, qu'est-ce qu'il fait? Il devient tagueur sur les murs. La place occupée par sa mère sur les murs devient sa place à lui jusqu'au jour où la police est sur le point de qu'il le suit, qui veut savoir qui c'est ce jeune tagueur dont tout le monde parle et qui est en train de barbouiller tous les murs de la ville. Quand ils sont sur le point de l'attraper, une galériste qui le suit, une jeune galériste, elle vient l'arracher à son mur et elle en fait un grand peintre. Et cet homme qui devient un peintre en Occident, qui vend beaucoup, qui devient connu, n'a qu'une seule envie, retourner dans son désert. Ce garçon peint toujours une femme qui est en train de traverser le désert, ce qui était sa mère. Une femme qui est devant une fenêtre et qui tombe par la fenêtre et sa mère se défenestre quand elle est devenue une pauvre chose, de rien du tout, qu'elle n'est plus demandée pour faire des photos, qu'elle a faim, qu'elle est misérable. Elle se défenestre.
Et se défenestre, c'est-à-dire qu'elle passe à travers le mur. L'intellectuel Régis Debray a expliqué que plus il y a de frontières et moins il y a de murs.
Vous savez, on confond souvent frontières et barrières, frontières et murs. C'est le contraire. La frontière, c'est le vaccin contre le mur. Parce que la frontière, ça permet l'aller et retour. La frontière, ça permet le va et vient. Quand vous avez une frontière, vous reconnaissez qu'il y a de l'autre côté de la frontière, et que cet autre peut venir chez vous, et que vous pouvez aller chez lui, mais à certaines conditions. Je dirais, en sens, si vous voulez, que la frontière est la meilleure amie du cosmopolitisme. Un peu comme Mozart disait, la mort est la meilleure amie de la vie. Mais pour accueillir quelqu'un, il faut avoir une porte, ouvrir sa porte, se tenir sur le seuil, accueil, seuil, frontière, tout ça va ensemble. La frontière n'est pas du tout la fermeture angoissante. La frontière est une marque de modestie. Je ne suis pas partout chez moi. Il y a une ligne au-delà de laquelle il y a d'autres personnes que je reconnais comme autres.
Ah ah, Régis Debray qui parle des frontières, c'est
magnifique.
Oui, c'est très intéressant.
Quel beau texte.
Contestable aussi, mais c'est ça qui est intéressant. Vénice Kourigata, êtes-vous d'accord avec ce paradoxe en fait que Régis Debray met en lumière, c'est-à-dire que la frontière ouvre, permet l'accueil, contrairement au mur qui ferme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Moi, je suis tout à fait d'accord, mais je pense aux frontières que moi-même j'ai dû franchir pour devenir ce que je suis actuellement. Ces frontières entre les deux langues, entre l'arabe et le français, j'ai toujours écrit les deux en même temps, fait du journalisme, traduit des poètes arabes en français et vice-versa. Alors, ce qui fait que je traverse toujours des frontières, en traduisant ma pensée arabe en français, parce que mes livres se déroulent toujours sur un sol arabe. Il y a beaucoup à raconter dans ces pays. Je ne saurais pas raconter un roman qui se passe en France. Je ne sais pas faire parler les Français. Donc, il y a toujours une frontière de la parole, et je reste le stylo suspendu en l'air en train de me dire qu'est-ce que je vais sacrifier à ma phrase arabe pour qu'elle puisse s'insérer dans l'étroite phrase française.
Ce sont vos chemins, vos traductions à vous qu'il est temps de connaître maintenant, Vénus Kourigata, ceux de votre écriture, et pour ça, eh bien, vous n'avez pas le choix, il s'agit du procès-verbal. Votre nom?
Mon nom, je le dois à mes deux maris. C'est Kouri et Gata. J'ai
Kouri
épousé
Gata.
Un Kouri, puis j'ai épousé un Gata.
Et donc voilà. Ça, vous avez mis les deux. Votre prénom?
Ah, je déteste. J'ai horreur de mon prénom. Mes parents auraient dû garder le premier nom, prénom qu'ils m'avaient donné, qui était Diane. Et puis un voisin, médecin, qui a donné le nom de Diane à sa chienne. Alors ils ont voulu trouver une déesse encore plus importante que Diane Chasseresse. Ils ont trouvé Vénus, la déesse de la beauté.
Que
de
nous,
l'amour.
À la Muse-Bouche, on trouve magnifique.
Mais il me pèse très lourd depuis que j'ai l'âge que j'ai.
Oh bah, pour quelqu'un qui a été Miss Beyrouth 1959, si Vénus colle pas à votre peau, je veux bien être pendue. Ça vous va très bien.
Vous êtes gentil.
Vous écrivez assise, couchée ou debout?
surtout coucher. C'est pour moi de comme faire l'amour. Le lit, c'est pour écrire. Et après, on transporte sur l'ordinateur.
Alors, sur ordinateur ou sur papier ? Faites les deux.
La poésie sur papier, mais le roman sur ordinateur.
Avez-vous un petit rituel avant ou pendant l'écriture ?
Un rituel de café turc le matin, avec voyance extralucide dans ma tasse que je renverse. C'est très important. Je ne peux pas ouvrir les yeux sans voir ma... Et je me rends compte, après 6 heures d'ordinateur, que j'ai 4-5 tasses de café retournées autour de mon ordinateur et que je n'ai pas mangé depuis la veille.
Le téléphone sonne alors que vous êtes en train d'écrire. Est-ce que vous décrochez ?
Non, je ne décroche pas, parce que mes phrases peuvent s'enfuir.
Qu'est-ce que vous faites quand ça ne vient pas ?
Ça vient toujours, jusqu'à maintenant. C'est drôle. Et je me suis dit, avec l'âge, je vais tarir. J'ai vu des grands poètes français, Marc Jacob, Mallarmé, tout ça, tarir du jour au lendemain. Je voudrais bien tarir pour pouvoir découvrir Paris. Je ne connais rien de Paris. J'aligne 6 à 7 heures par jour d'écriture et de lecture, parce que je suis dans quelques jurys.
Ah bah nous, on ne veut pas que vous vous tarissiez. En tout cas, merci pour ce procès-verbal, Vénus Kourigata. Reprenons la route de cette émission. Et pour ça, on a choisi pour vous la route du groupe Radio Elvis.
Je ne t'oublierai jamais, criais-je sur le départ. Et la nuit s'est levée, nous blessant au hasard. Pour me perdre un peu plus, pour nous perdre un peu plus. Les mirages éteignaient nos naissances sur la pierre que la soif. Et à mesure que la vie s'éloignait, ma voix perdait de sa force. Les dunes se déplaçaient, balayaient mes repères, laissant à découvert la route. Parsemée doucement, j'essayais doucement de contenir les vents. La route. Et l'orage s'avançait, nous faisant chevalier de ces légions fantômes. J'ai trop longtemps marché dans les pas d'un cyclone. Les mirages éteignaient nos naissances sur la pierre que la soif. Et à mesure que la vie s'éloignait, ma voix perdait de sa force. Les dunes se déplaçaient, balayaient mes repères. J'ai prononcé des mots que je ne connaissais pas, jamais si proche de moi que sur les chemins de l'errance.
Sur France Inter avec Vénus Kourigata pour l'adieu à la femme rouge, l'histoire d'une mère de famille africaine qui part en Europe et sa famille la suit, bien décidée à la retrouver. Et ben moi, j'en connais d'autres des voyageurs, Vénus, mais oui, des voyageurs immobiles et pourtant toujours en mouvement, en marche, comme dirait l'autre, ce sont les libraires. Et alors je ne sais pas pourquoi, ça doit être une espèce de pause, un point route pour eux, mais ils nous appellent, c'est très bizarre, ils nous appellent chaque samedi à cette heure-ci. C'est quand même... Voilà, quelle drôle de sonnerie. C'est l'hymne libanais, comment se fait-ce? Allô?
Allô, bonsoir, c'est Jean-François, j'appelle pour l'apéro.
Oh, mais Jean-François, ne seriez-vous pas Jean-François de l'Après, de la librairie Saint-Christophe, à Lesnevin, dans le Finistère. Est-ce que c'est bien ça?
Tout à fait ça, Clara.
Et bien voilà, la rencontre du Liban et du Finistère. Il était temps, personne n'avait tenté. Nous le faisons dans la Muse-Bouche ce soir. Jean-François, quelle est la question la plus farfelue que vous avez entendue dans votre boutique?
Il nous est arrivé, depuis 27 ans que je suis libraire, je n'avais jamais eu encore celle-là. Et la semaine dernière, j'avais deux petits gamins qui s'arrêtent en vélo devant la librairie. Et puis il y en a un qui dit à l'autre, c'est quoi déjà le livre? C'est quoi le livre déjà? Et j'entends un qui fait, c'est l'avare de Mozart. Je me dis, bon, je pense qu'ils vont rectifier en rentrant. Et non, il arrive devant moi, le petit bout de chou de 12 ans, et il me fait, je voudrais l'avare de Mozart. Je dis, ah, et la grippe aviaire de Molière, ça tirait pas mieux? Et il me regarde avec des grands yeux, il me dit, non, moi c'est l'avare de Mozart. Je dis, ok, bon, alors je vais te le chercher. Et ni une ni deux, il a regardé. Non, ça l'a pas choqué du tout. Et je me suis dit, dans le Bourgeois Gentilhomme, il y a le menuet de Lully. Et là, je me suis dit, qu'aurait fait Mozart dans l'avare?
Mais après tout, Molière fut le Mozart du théâtre. On peut le voir comme
tout
ça aussi.
Voilà aussi.
Et le Requiem de Molière.
Exactement.
Oui.
Quel livre conseilleriez-vous à notre invité, Vénus Kurigata?
Alors moi, j'ai une petite Madeleine de Proust depuis bientôt 3 ans, qui est Le dernier gardien d'Ellis Island de Gael Josse, qui était paru chez Notabilia en août 2014, et qui raconte l'histoire de John Mitchell, qui est le directeur de cette île Ellis Island, qui était cette île qui servait de point de passage pour les étrangers qui voulaient fouler le sol américain. Mitchell était le directeur, et puis il a vu passer des milliers de migrants qui venaient chercher en Amérique un coin de ciel bleu, un peu comme ce qui nous arrive aujourd'hui, qui fait les massacres. Et alors que tout se termine, toutes ces années, il va écrire son journal de ses derniers jours et il va se rappeler de toutes ces années qui se sont passées à Ellis Island. Il va nous rappeler Ellis, sa jeune femme qui est venue sur l'île pour soigner les migrants et qui va y mourir. Il va nous parler de Nella Casarini, une belle sarde qui arrive sur Ellis Island aussi avec son frère idiot et qu'il va aimer à la folie. Et c'est en fait tous ses doutes, tous ses désirs, toutes ses faiblesses qu'il écrit dans son journal du 4 au 11 novembre 1954, avant de fermer ce qui lui aura finalement tenu de lieu de vie pendant près de 30 ans.
Donc c'est le journal de bord d'une frontière, en fait, qui est celle du phare.
Et des doutes d'un homme, finalement, face à l'adversité, face à l'amour, face à la haine, et surtout, je crois, face à son propre destin.
Oui, un très beau roman. Vous nous redonnez les références, Jean-François?
Alors, c'est Le dernier gardien d'Ellis Island de Gael Josse, qui était paru chez Notabilia et qui est également paru en poche désormais chez J'ai lu.
Ah bah je vais vous l'acheter, Vénus Kurigata, c'est pour vous, avec les migrants. En tout cas, merci Jean-François Delapré de la librairie Saint-Christophe à Lesnevin, et puis merci au magazine Page, la revue des libraires, partenaire de la Muse-Bouche. Jean-François, il va de soi qu'on vous attend pour un petit verre de messe. C'est l'alcool qu'on boit en Érythrée. À la base, ouais, ben alors cramponnez-vous parce que c'est à la base de feuilles et de miel, degré d'alcool de 15%. Hein, on embrasse le CSA et on vous attend.
À tout de suite.
Au revoir Jean-François.
Au revoir.
C'est l'heure des inavouables. Ah ben oui, Vénus Kurigata, on a beau être la reine des poèmes, on n'en est pas moins humaine. Et je ne vous l'apprends pas, j'espère. Y a-t-il une chanson, un programme télé, un film catalogué un peu ringard, un peu kitsch, mais que vous aimez néanmoins un peu honteusement?
C'est Top Chef.
L'émission de télé.
L'émission de la 6. Je pique des recettes que j'utilise moi-même après, que j'exerce.
Vous a préparé un petit truc pour vous, on l'a concocté.
Le thème, c'est faites-moi craquer. Si ma meringue, elle craque pas, ben, je fais craquer juste personne, quoi. Et si je fais craquer personne, go Belgium, quoi.
Ne perdez pas de temps à faire de la mise en place pour 50 000, hein. On fait pas un banquet.
Oui. J'en voulais un peu pour moi.
Et le sel et le poivre, vous en mettez?
Moi, j'aime pas mettre les sels poivre sur table. Parce que je suis beaucoup trop prétentieux, donc je me dis que j'ai quand même bien assaisonné ce que je fais.
Je te demande pas, on fait un enfant, non. Je te demande, est-ce qu'on met du vinaigre dans cette crème de brie ou pas? Je te dis pas, tiens, on va faire notre vie ensemble, je la demande pas en mariage, il faut pas réfléchir 2 heures, quoi.
Mon but, moi, c'est d'étonner par le goût, c'est simple. La cuisine, c'est pas d'étonner par des techniques. J'ai fait fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. On entend avoir fait des trucs délirants. Quand on mange, c'est pas bon, quoi.
Ah bah voilà, c'est le franc-parler du candidat Maximilien, belge. La dernière saison s'est achevée le 19 avril dernier. Pourquoi vous aimez bien Top Chef, Vénus Kurigata?
Pour cuisiner moi-même.
Tenir
pour
en haleine,
exercer à la cuisine française.
Oui, mais
aussi.
Est-ce que vous ressentez un peu le suspense quand même? Ça vous tient un peu en haleine ou ça vous est égal et vous regardez que les plats?
Non, il y a de très bonnes choses en matière de pâtisserie. Ils sont très très forts.
Ah oui, vous avez l'esprit pragmatique. Vous regardez Top Chef avec l'esprit pratique de quelqu'un qui aime faire la cuisine.
Voilà, exactement.
Est-ce que vous aviez une chanson, je crois, qui vous tapait un peu dans le cœur de façon un petit peu honteuse? C'est laquelle?
C'est Bambino de Dalida.
Bambino de Dalida.
Je sais bien que tu l'adores, Bambino, Bambino, et qu'elle a des jolis yeux, Bambino, Bambino, mais tu es trop jeune encore, Bambino, Bambino, pour jouer les amoureux. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino, ta musique est plus jolie.
C'était d'abord une ritournelle napolitaine, et puis ça a été chanté par Dalida en 1957, donc oui, avec l'accent égyptien,
oui,
et non pas italien. Et qu'est-ce que ça vous inspire, cette chanson? Ça vous rappelle des choses?
Ça me rappelle elle, que j'ai bien connue. On allait dans un restaurant à Montmartre, et elle était assidue à ce restaurant chez... elle venait tous les soirs, elle se mettait à notre table quand on venait et elle nous racontait qu'elle était malheureuse, qu'elle aimait un homme, qu'il ne l'aimait pas assez, qu'il ne voulait pas quitter sa femme. Et cette femme était très émouvante, très touchante. Elle était belle en plus, elle ne savait pas être heureuse.
Et du coup, c'est devenu une copine?
Oui.
C'est assez classe d'avoir Dalida comme copine quand même.
Mais...
Oh, bah oui, c'est assez classe.
Oui, elle avait besoin de s'épancher, de parler. Et comme j'avais une amie italienne qui parlait avec elle italien, donc quand elles commençaient toutes les deux à parler avec cette langue magnifique qu'est l'italien, de leurs amours, de leur et dire que les hommes ne valent pas la peine, qu'aucun homme n'est capable d'aimer sincèrement, je me disais peut-être qu'elles ont raison, peut-être qu'elles n'en ont pas.
Est-ce qu'il y a, Vénus Kourigata, un classique qui vous tombe des mains, c'est-à-dire le grand chef-d'œuvre, et vous essayez de le lire, et bien ça ne vient pas?
J'ai honte de dire que j'ai essayé, depuis que j'ai fait mes études de lettres, lire Proust.
Ah, vous n'y arrivez pas?
Je n'arrive pas. J'ai même acheté le livre des Antoven, Raphaël et son père, Jean-Paul, le dictionnaire amoureux de Marcel Proust. Je me suis dit, tiens, ils vont m'aider, ils vont m'ouvrir les portes. J'ai beaucoup essayé, même j'ai essayé tout dernièrement avec.
Je ne sais
pas, c'est une autre culture, Clara, ce n'est pas ma culture, ces femmes et ces hommes et ces... qui ne peuvent pas saluer tel dans la rue parce qu'il est d'une autre classe. Parce que moi, les classes, il n'y a pas chez moi. Dans mon pays, on est riche, on est pauvre. Et les pauvres, quand ils font de l'argent, même illicitement, deviennent riches, ils sont acceptés par les riches. Je ne vois pas toutes ces petites. Ce maniérisme, telle dame, on ne la salue pas dans la rue. Tel homme, Swan, ne peut pas exhiber sa femme, il ne peut pas la montrer. Tout ça m'étouffe, je ne peux pas, je ne supporte pas.
Pauvre Marcel, en tout cas, c'est sur ces paroles définitives que nous rangeons les amuse-bouches pour passer à table. Soyez les bienvenus d'où que vous veniez d'ailleurs. L'adieu à la femme rouge de Vénus Kourigata est paru au Mercure de France. La semaine prochaine, nous recevrons Stéphane Carlier pour Amuse-Bouche, et oui, paru au Cherche Midi, il nous a copié. L'Amuse-Bouche est un long voyage préparé par Marie-Annick Rimbaud, Claire-Sophie Collet, Thierry Dupin et Jean-Noël Vélan. Bonne semaine, n'oubliez pas de sourire à ceux qui arrivent de loin. On vous embrasse, bonne semaine Vénus Kourigata.
À vous pareillement.
Et bonne semaine à tous nos auditeurs.